VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 12 octobre 2022, en direct de Washington, Idrissa Sédoulia. Pour commencer, les titres. Au Mali, le chef de la junte au pouvoir, le colonel Assimi Goïta, reçoit un projet de nouvelle constitution. Au Burkina Faso, aux manifestations de centaines d'élèves pour leur droit à l'éducation à Djibo, dans le nord, en proie à la menace djihadiste. Deuil et colère en Gambie après la mort de dizaines d'enfants, quatre sirops du laboratoire indien Maiden Pharmaceuticals contre la toux et le rhume mis en cause. Au Soudan du Sud, plus de 900 000 personnes sont touchées par des inondations. Nouvelle frappe russe contre l'Ukraine, le G7 promet de demander des comptes au président russe Vladimir Poutine. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Mali, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu mardi un projet de nouvelle constitution, un élément clé du vaste chantier sur la voie des élections prévues en 2024. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Cet avant-projet de constitution a été remis au colonel Goïta avec 2 mois de retard sur le délai initialement imparti à la commission chargée de l'élaborer. Le texte doit être soumis au Conseil des ministres et à l'organe tenant lieu du Parlement. Il est censé être soumis à référendum en mars 2023. Les autorités citent la rédaction d'une nouvelle constitution comme une des réformes impératives pour mener à bien leur projet de refondation de l'État malien. L'actuelle constitution, datant de 1992, passe pour un facteur de la crise politique que traverse le pays depuis des années et qui amplifie la grave crise sécuritaire en cours depuis 2012. Les militaires se sont engagés sous la pression à organiser des élections en février 2024 et à céder la place en mars de la même année. Le président de la commission de rédaction a prévenu le colonel Goïta que toute constitution sera objet de contestation, de critiques et de controverses, a rapporté dans un communiqué la présidence malienne. Il a toutefois assuré que le projet avait été rédigé après consultation des forces vives de la nation.
Au Burkina Faso, plusieurs centaines d'élèves ont manifesté mardi à Djibo, principale ville du Nord, sous blocus djihadiste depuis plusieurs mois. Ils revendiquent leur droit à l'éducation, Yacouba Ouédraogo.
Les jeunes manifestants ont arpenté les artères de Djibo, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Nous sommes aussi des Burkinabés, nous avons droit à l'éducation, école en pointillé à Djibo ». Ils se sont ensuite rassemblés devant le Haut Commissariat, où ils ont été reçus par le préfet de Djibo, Marouil Boudou. Selon leur porte-parole, Ali Diko, les élèves réclament d'héliporter les enseignants absents, rétablir les réseaux de communication, sécuriser la ville et la route Ouaga-Djibo, principal axe de ravitaillement de la ville. Les cours ont repris depuis début octobre dans le reste du Burkina, mais les enseignants qui sont partis en vacances ne sont pas revenus. Selon le syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur, l'année scolaire en cours est marquée par la fermeture de plus de 4000 écoles. Il ajoute que cette situation affecte plus de 700 000 élèves sur l'ensemble du territoire en raison des crises sociopolitiques, sécuritaires, sanitaires et humanitaires.
Au Tchad, le Premier ministre Albert Pahimi Padake a démissionné mardi. La veille, le général Mahamat Idriss Déby Itno, prolongé de 2 ans comme président d'une période de transition, avait annoncé la nomination prochaine d'un gouvernement d'union nationale. Monsieur Padake a présenté sa démission et celle de son gouvernement lors d'une audience avec le chef de l'État qui les a acceptés selon un communiqué de la présidence. Il avait été nommé il y a 18 mois par Mahamat Déby. En Gambie, au moins 69 enfants ont succombé à une insuffisance rénale aiguë au cours des 3 derniers mois. Les autorités sanitaires et la police ont ouvert une enquête. Des sirops fabriqués en Inde sont mis en cause, Mohamed Humfa.
4 sirops contre la toux et le rhume fabriqués par le laboratoire indien Medan Pharmaceuticals sont mis en cause. Les enquêtes ouvertes par les autorités et par l'OMS devront dire si la vie de ces enfants, tous âgés de moins de 5 ans, s'est arrêtée prématurément parce qu'on leur avait administré ces médicaments contenant, selon l'OMS, des quantités inacceptables de diéthylène glycol et d'éthylène glycol communément employés comme antigel. Les interrogations prolifèrent sur les raisons pour lesquelles des produits frelatés auraient échappé à toute supervision et pourquoi la Gambie serait l'un des seuls pays à les avoir importés. Les autorités ont commencé à être alertées fin juillet au moins. Au début, elles ont cité comme cause possible, en plus des sirops, la bactérie E. coli qui se serait propagée à la faveur des pluies. Elles ont finalement ordonné le rappel des sirops le 23 septembre. Le président Adama Barrow s'est adressé aux Gambiens samedi. Il a ordonné la création d'un laboratoire de contrôle et a fait suspendre la licence de l'importateur des 10 sirops. L'OMS a lancé une alerte la semaine passée et selon elle, il n'est pas impossible que les sirops aient été distribués dans d'autres pays par des voies informelles.
Plus de 900 000 personnes sont touchées par les inondations qui frappent le Soudan du Sud, soit deux fois plus qu'en septembre, selon une estimation publiée hier mardi par les Nations Unies. Le point avec Abdulrahman Dia.
Ces inondations ont tué du bétail et détruit des cultures, emporté des routes et des ponts, détruit des maisons, des écoles et des infrastructures de santé. Les fortes pluies ont aussi submergé puits de forage et latrines, contaminant ainsi des sources et faisant peser des risques de maladies d'origine hydrique, écrit le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Dans l'état de l'unité, dans le nord du pays, la montée des eaux a provoqué dimanche la rupture de digues, menaçant deux camps de déplacés et une base de la mission de l'ONU, toujours selon OCHA. Dans l'ouest du pays, les pluies torrentielles ont provoqué l'effondrement d'un pont, coupant la voie d'acheminement de l'aide d'urgence à des populations déjà rudement mises à l'épreuve, ajoute la note. Ces intempéries touchent les populations dans 9 des 10 États du pays. En proie à des violences à caractère politico-ethnique et à une instabilité chronique depuis son indépendance en 2011, le Soudan du Sud subit des inondations pour la 4e année consécutive.
Près de 200 migrants, en majorité des Tunisiens, ont été interceptés en mer en deux jours alors qu'ils projetaient de rejoindre l'Europe en traversant la Méditerranée, a annoncé mardi le ministère de la Défense de la Tunisie. Parmi les migrants âgés de 2 à 49 ans, figurent 118 Tunisiens et 76 autres personnes issues de pays d'Afrique subsaharienne, dont 42 femmes et 8 enfants, a-t-on précisé de même source.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie a revendiqué mardi de nouvelles frappes massives sur les infrastructures ukrainiennes pour lesquelles le G7, réuni en urgence, a promis de demander des comptes au président russe Vladimir Poutine. Déplorant dans un communiqué la stratégie russe d'escalade délibérée, le G7 a condamné de la façon la plus véhémente possible ces attaques aveugles contre des populations civiles innocentes qui sont un crime de guerre. En réunion virtuelle avec le G7 dans la journée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui demandé à l'organisation de l'aider à créer un bouclier aérien au-dessus de l'Ukraine. Pour le président américain Joe Biden, son homologue russe avait fait une complète erreur de calcul sur la résistance ukrainienne, pensant être accueilli à bras ouverts. Par ailleurs, le président Biden, échaudé par les décisions de Riyad sur le pétrole, a nettement haussé le ton mardi contre les Saoudiens. « Il y aura des conséquences pour ce qu'ils ont fait avec la Russie », a dit M. Biden lors d'une interview avec la chaîne CNN, sans préciser de quelle nature elle serait. Il faisait allusion à la récente décision de l'OPEP, cartel du pétrole mené par Riyad, de sabrer ses quotas de production, ce qui pourrait faire flamber les cours et donc garnir les caisses de la Russie qui compte sur ses ventes d'hydrocarbures pour financer la guerre en Ukraine. L'agence spatiale américaine NASA a annoncé mardi avoir réussi à dévier un astéroïde de sa trajectoire en projetant fin septembre un vaisseau de la taille d'un gros réfrigérateur contre sa surface. Une mission test inédite qui doit permettre à l'humanité d'apprendre à se protéger d'une éventuelle menace future. En revanche, la fusée japonaise transportant plusieurs satellites a échoué à décoller ce mercredi et a par conséquent reçu un ordre d'autodestruction, a confirmé l'agence spatiale nippone, pour laquelle il s'agit du premier échec de lancement depuis 2003. La Minute Éco, Mohamedou Humfa.
La première édition de la foire industrielle et artisanale de l'Afrique se déroulera du 18 novembre au 4 décembre prochain à Cotonou au Bénin, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs. Elle permettra aux industries de mieux faire connaître leurs produits, d'avoir accès à de nouveaux marchés et de promouvoir le « Made in Africa ». La Zambie et le centre Ban Ki-moon pour les citoyens du monde ont signé lundi un protocole d'accord pour soutenir environ 1,5 million de petits exploitants agricoles dans l'adaptation au climat. Ces petits exploitants ont besoin d'un soutien politique et financier pour lutter contre les effets néfastes du changement climatique et renforcer leur capacité d'adaptation, a indiqué le ministre zambien de l'économie verte et de l'environnement, ajoutant que ceux-ci sont des acteurs clés dans les systèmes alimentaires de son pays. Le FMI a mis en garde mardi contre la montée des risques pour la stabilité financière mondiale. Des nuages d'orage sont en train de s'accumuler sur l'économie mondiale, parmi lesquels une inflation persistante, un ralentissement en Chine et les tensions créées par la guerre en Ukraine. Le FMI estime que le risque de crise grave a atteint son plus haut niveau depuis le début de la pandémie de COVID-19.
Merci Mohamedou. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La FIFA va distribuer 209 millions de dollars aux clubs concernés par le Mondial 2022.
Oui, l'instance mondiale du ballon rond va donner cette somme aux clubs qui libèrent leurs internationaux pour le Mondial 2022 au Qatar, d'après la FIFA. Chaque formation recevra environ 10 000 dollars par jour de mise à disposition d'un de ses joueurs, y compris pendant la préparation officielle en amont du tournoi prévu du 20 novembre au 18 décembre. Cette indemnisation concerne tous les clubs pour lesquels le footballeur aura joué dans les deux ans précédant la Coupe du Monde. La FIFA avait mis en place ce système en amont du Mondial 2010 en Afrique du Sud. Lors du Mondial 2018 en Russie, 416 clubs issus de 63 fédérations nationales s'étaient partagés le même montant de 209 millions de dollars.
Suite des matchs de la quatrième journée en Ligue des Champions ce soir en Europe.
Oui, le FC Barcelone n'a pas droit à l'erreur contre l'Inter Milan. Une victoire permettrait au Barça de continuer à rêver de la qualification dans ce groupe C, dominé par le Bayern Munich, tout proche d'atteindre les huitièmes. Le Bayern justement se qualifierait en cas de succès face au Victoria Plzeň. Outre le Bayern, deux autres équipes sont bien placées pour valider dès ce mercredi leur ticket pour les huitièmes. Il s'agit de Naples et le FC Bruges. Naples du Nigérian Victor Osimhen reçoit l'Ajax Amsterdam. Un nouveau succès napolitain ferait aussi les affaires de Liverpool, actuel deuxième au classement au moment de se déplacer à Glasgow chez les Rangers. Le groupe D propose un déplacement de Marseille sur le terrain du Sporting Portugal et un duel Tottenham-Francfort. Quatre équipes qui peuvent toujours légitimement rêver des huitièmes. Et justement, hier, le Real Madrid, champion en titre, s'est qualifié pour les huitièmes de finale grâce à son résultat nul face au Shakhtar Donetsk du Burkinabé Franck Lassina Traoré, un but partout à Varsovie. Chelsea du Sénégalais Kalidou Koulibaly a battu 2-0 l'AC Milan, réduit à 10 à San Siro, et s'est emparé de la tête du groupe E. Mauvaise nouvelle pour le Sénégal. Le portier des Lions de la Teranga, Edouard Mendy, était sur le banc. Le Paris Saint-Germain a concédé un nouveau match nul 1-1 face au Benfica.
Athlétisme, Marc Kangogo, suspendu provisoirement pour dopage.
L'annonce a été faite par l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Marc Kagongo, a été contrôlé positif à des substances dopantes. Cette annonce intervient alors que les cas de dopage se multiplient au Kenya depuis le début de l'année. Kagongo est le 21e athlète kenyan suspendu en 2022 suite à des suspicions ou de cas avérés de dopage. La Fédération d'athlétisme kenyane a annoncé avoir renforcé ses moyens afin de démanteler les cartels et accélérer la guerre faite au dopage.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, Aminata Touré, ancienne première ministre et dissidente de la mouvance présidentielle, a présenté cette semaine une proposition au président de l'Assemblée nationale. Celle-ci devrait empêcher le président de la République de nommer ses proches aux fonctions civiles et militaires clés. Cependant, certains Sénégalais ne sont pas totalement convaincus de cette démarche, même s'ils en apprécient la teneur. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué.
Président d'institution, premier ministre, ministre, secrétaire d'État, chef d'État-major général des armées sont entre autres les postes visés par la proposition de loi de Aminata Touré. Pour l'ancienne premier ministre du Sénégal, la famille du président de la République ne devrait pas avoir accès à ces postes. Pour Makhtar Fall, l'acte posé par Aminata Touré est avant tout un acte politique et de défiance.
On peut considérer cet acte-là comme un acte de casus belli, donc une déclaration de guerre. Et là, c'est très important de le comprendre comme ça. Parce que depuis sa démission, il y a une petite frange de la population pensant que Mimi Touré est toujours dans les calculs de Macky Sall ou qu'elle est dans des communes actionnées. Et on vient à peine donc de voir que loin s'en faut.
Une initiative qui vient de manière tardive d'après Khadim Diakhaté. Pour lui, Aminata Touré, qui fut l'une des pièces maîtresses du système, ne cherche qu'à se faire un nom dans l'espace politique.
On n'oublie pas que cette femme était l'une des pièces maîtresses du magistère de Macky Sall. Donc elle a été déclassée pour des raisons politiques, on le sait tous. À mon avis, Mimi vient de se rendre compte qu'est-ce que c'est que l'injustice. Elle se trouve aujourd'hui dans une impasse anxiogène causée par des calculs politiques internes et elle veut recoudre sa toge en utilisant ses anciens combats pour la famille.
Cette proposition est certes appréciable, mais la loi se doit d'être bien écrite, car pour Matar, elle n'est pas loin d'être discriminatoire.
J'avoue que les places, ou en tout cas les stations, ne doivent être meublées que par les meilleurs d'entre nous. Mais est-ce que cette proposition de loi ne va pas ouvrir une boîte de Pandore? Quelle boîte de Pandore? Donc que même si je suis cousin, cousine ou je suis proche donc du prince, quel que soit le niveau que j'ai, le background que j'ai, le parcours que j'ai, le CV que j'ai, j'aurai aucune possibilité donc d'occuper des stations, en tout cas de nomination, etc. En tout cas, ça risque d'être la petite brèche qui va gêner sur cette proposition de loi-là.
Pressenti au perchoir de l'Assemblée nationale au lendemain des élections législatives de 2022, Aminata Touré s'est vu doublé par Amadou Mam Diop, présenté comme étant un proche de la famille présidentielle. Un coup politique que l'ancien premier ministre de Macky Sall ne semble pas digérer. Seydina Abagué à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Dans l'ouest de la République démocratique du Congo, le conflit qui oppose depuis juin les communautés Teke et Yaka a fait plus de 180 morts. C'est ce qu'a déclaré lundi soir Patrick Muyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais. Une précédente communication avait fait état de 18 personnes tuées début août dans des affrontements entre des membres des deux communautés. Le calme est revenu dans plusieurs localités du Maïnombe et du Kouilou. Mais la situation humanitaire reste catastrophique. Des villages sont vidés de leur population et les déplacés vivent dans des conditions très difficiles, nous dit Alex Katikatayi, notre correspondant à Kinshasa.
Les différents foyers de tension ont été maîtrisés grâce à l'intervention de l'armée. Le territoire de Kwamout, épicentre du conflit, est calme depuis plus de deux semaines maintenant. Le même calme règne aussi dans le territoire de Bagata, au Kouilou voisin. Mais c'est la situation humanitaire qui reste désastreuse. Des milliers de déplacés manquent de tout. Sylvain Delmambo, député élu de Bagata, peint un tableau sombre des conditions de vie des déplacés.
La plupart aujourd'hui se trouvent regroupés à Fatundu, le chef-lieu du secteur Wamba, dans le territoire de Bagata, dans le Kwilu. Alors là, ils vivent des situations intenables, il y a la faim, ils dorment à même le sol, et puis même les populations locales sont totalement dépassées. Un petit marché, aujourd'hui avec un supplément de plus de 3 500 personnes, ils ne savent pas se nourrir convenablement, et les enfants, que ce soit les enfants des déplacés comme des familles d'accueil, sont sans école. Ceci, c'est la même chose comme à Bandundu. La situation est toujours préoccupante.
À propos du retour des déplacés dans leurs villages respectifs, les gouverneurs du Maïndombe, du Kwilu et du Kwango ont sollicité une intervention du gouvernement central. Willy Ichundala, gouverneur du Kwilu, explique leur démarche auprès du président Tshisekedi.
Plusieurs personnes ayant fui des atrocités se retrouvent aujourd'hui à Bandunduville, à Fatundu, à Kengi, à 316, voire même vers Bolobo. Pourquoi nous sommes venus rencontrer le père de la nation, s'il peut nous aider à évacuer ces gens-là, à les ramener là où ils veulent ou les faire retourner d'où ils viennent.
Des réflexions sur l'organisation d'une table ronde pour la réconciliation entre les Bateke et les Bayaka sont en cours à Kinshasa. Elles réunissent les gouverneurs des trois provinces touchées par ces conflits ainsi que les experts du ministère de l'Intérieur. Jean-Marie Petit-Petit, gouverneur du Kwango, espère que cette table ronde favorisera la cohabitation pacifique entre les deux peuples.
Bon, le colloque, c'est ce que nous avons souhaité, afin qu'on les écoute, afin qu'on négocie si le possible, que les chefs coutumiers peut-être reviennent sur le bon sentiment, afin de ne pas augmenter à l'improviste comme ça la redevance. Et de l'autre côté, les Yaka doivent accepter aussi, évidemment, la situation et qu'ils doivent respecter les principes coutumiers. Nous allons dans ce sens-là. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse le plus pour les trois gouverneurs, c'est trouver une solution, la paix. Donc, c'est pourquoi on a évoqué ce colloque-là.
Une bonne réconciliation passe par une bonne justice, estime un élu Teke. Willy Bolio suggère que les différents suspects arrêtés soient jugés à Kwamout, épicentre du conflit, afin que les victimes puissent témoigner et être soulagées.
Qu'il y ait un procès organisé sur place à Kwamout, avec tous les inculpés qu'on avait arrêtés, que le procès se fasse à Kwamout pour permettre à ce que et les témoins et les victimes soient en mesure d'apporter la lumière. Si on le fait à Kinshasa, ce serait une distraction parce qu'il n'y aura ni témoins et on ne saura pas établir les faits correctement.
Selon un élu du Kwilu, le cardinal Ambongo va se rendre dans la zone en conflit ce mardi pour réconforter les fidèles catholiques. De son côté, le gouvernement compte y acheminer une nouvelle aide humanitaire dans les tout prochains jours. Alex Katikatai, Kinshasa, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Au Cameroun, le nombre de patients souffrant de troubles mentaux a plus que doublé l'année dernière, alors que le pays est confronté à une crise séparatiste dans ses régions occidentales et Boko Haram dans le nord. Dans le cadre de la Journée mondiale de la santé mentale de ce 10 octobre, le correspondant de la VOA à Yaoundé, Moki Edwin Kinzeka, fait le point. Le récit est de Jean-Roger Bion.
Fombé Edwick est le directeur du centre de santé mentale Vaen à Bamenda, capitale de la région anglophone, dans le nord-ouest du Cameroun. Son hôpital a été choisi pour abriter les activités de la Journée mondiale de la santé mentale parce que le nombre de patients présentant des troubles psychiatriques est passé d'une vingtaine en 2021 à plus de 100 en cette année.
Nous recevons ceux qui ont vécu des traumatismes et ils sont tristes. Beaucoup qui se plaignent d'insomnie, certains sont incapables de se contrôler, ils sont très agités. Certains ont de graves problèmes de colère. Ils présentent des tendances émotionnelles et comportementales qui sont incontrôlables.
D'après M. Fombé, de nombreuses familles n'ont pas les ressources pour s'occuper des malades mentaux à domicile et abandonnent les patients au centre ou les mettent à la rue. Rebecca Nkwatié est la responsable gouvernementale en charge des malades mentaux dans la région du Nord-Ouest. Elle affirme que le nombre de patients psychiatriques demandant de l'aide dans la région est passé de moins de 2500
à plus de 6 000 au cours de l'année écoulée.
Certains d'entre eux viennent ici déjà maltraités. Alors nous écoutons leur histoire pour remonter leur morale et dans le cadre de la recherche de solutions, cela peut nécessiter que nous fassions des visites à domicile. Nous les aidons au niveau de la police et nous travaillons avec ceux qui viennent à l'hôpital pour gérer des traumatismes. Nous nous assurons qu'ils bénéficient des mêmes droits que les autres personnes.
Le nombre de malades mentaux au Cameroun est passé d'environ 10 000 à 23 000 au cours des 12 derniers mois. Le gouvernement affirme avec le ralentissement de la crise séparatiste dans les régions de l'Ouest et du terrorisme de Boko Haram à la frontière nord. Les travailleurs humanitaires sont mieux à même de trouver et d'aider les patients abandonnés dans les villages où le combat était intense. Laure Mengeme est la directrice de la santé mentale au ministère de la Santé.
Des travailleurs qui sont dans un état de mal-être pour de nombreuses raisons, les conditions de travail qui ne sont pas adaptées, au point où quand vous pensez que vous devez vous rendre dans votre lieu de travail, vous commencez à avoir mal à la tête, de devenir nerveux. C'est l'agressivité, c'est l'irritabilité, c'est la violence, etc. Ça, c'est un problème de santé mentale. Quand vous perdez un être cher, vous ne pouvez pas dire exactement où ça fait mal. Ça, c'est un problème de santé mentale.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, les inégalités croissantes, les conflits prolongés, la violence et les urgences de santé publique continuent de peser sur la santé mentale. Selon l'ONU, 84 millions de personnes dans le monde ont été déplacées de force l'an dernier, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de personnes ayant besoin de soins de santé mentale. Cette année, le thème de la Journée mondiale de la santé mentale est de faire de la santé mentale et du bien-être pour tous une priorité mondiale.
Washington, la voix de l'Amérique.
Au Togo, les hippopotames font l'objet d'une attention particulière. Un projet de protection et de sauvegarde de l'espèce est mis en œuvre depuis quelques années. Les résultats se font sentir avec l'accroissement de la population des hippopotames. Mais les conflits avec les agriculteurs se sont aussi multipliés. De Lomé, notre correspondant Kossi Wosu.
Profitant des projets successifs de protection, le nombre des hippopotames s'est accru considérablement à l'espace de deux décennies. Dans les mares de la localité de Afito, dans le sud-est du pays, on en compte une soixantaine aujourd'hui. Lolo Amavinuodo du Centre de développement des actions communautaires témoigne.
Est-ce qu'il y avait des hippopotames ici? Mais à un moment donné, les populations ont commencé par tuer les hippopotames en désordre jusqu'à ce que, quand nous on était venus ici, en 2004, il y avait que presque trois individus. Et les trois individus sont même menacés de disparition. Donc c'est quand on a commencé les actions, on a commencé par sensibiliser tout ça là. Aujourd'hui, nous avons une soixantaine d'individus.
Un projet de gestion durable du complexe des mares aux hippopotames d'Afito permet la surveillance et la sauvegarde de l'espèce. Pour Yao Komi, le coordonnateur adjoint du projet, il ne peut en être autrement.
On n'est pas sans savoir que les hippopotames sont des espèces rares protégées sur le plan international. Donc si nous avons la chance aujourd'hui d'avoir cet animal au Togo, il est de notre devoir de le protéger. Ah, plutôt, la certitude est là que si on vient aujourd'hui, on peut trouver les hippopotames. Donc, c'est pourquoi le projet intervient pour la protection de ces animaux.
Entre ces espèces protégées et les populations riveraines, l'entente n'est pas cordiale. Popo Kofi est l'adjoint au chef du village d'Afito.
Les hippopotames passent dans les champs et dévastent nos cultures. Les cultivateurs s'énervent pour cela. Tout ceci crée des problèmes. Il y a un comité qui évalue les dégâts, mais jusqu'ici, personne n'est indemnisé. On nous a parlé d'un projet de reboisement autour des mares afin que les bêtes y trouvent leur nourriture. Mais ce n'est pas effectif. Donc, pour le moment, les hippopotames rentrent toujours dans nos champs.
Douti Patekom est le directeur préfectoral de l'environnement. Il mise sur les éventuels revenus du tourisme pour compenser les pertes des habitants.
Ce genre de conflit, pour le moment, nous sommes en train de voir dans quelle mesure les gérer, parce que normalement, quand des dégâts pareils arrivent, il faut pouvoir trouver des mesures compensatoires pour les victimes. L'arrangement qu'on peut faire, c'est toujours porter haut la sensibilisation à la sauvegarde de cet écosystème pour les intérêts qu'on peut avoir dans le milieu tel que le tourisme.
Le projet s'active dans ce sens avec la construction d'un centre d'hébergement des touristes, la dotation des pirogues pour des randonnées sur les mares, des miradors pour une meilleure observation des hippopotames et des activités génératrices de revenus pour les populations. Kossi Woussou, Lomé pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sevudia, à la mise en onde de Fatouma Kalala Alimassi, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.